l'ex-défenseur dans la Ligue nationale avec RDS, Denis Gauthier. Comment vas-tu?
Très bien, Tony. Comment vas-tu, toi?
Ça va très bien.
Moi, je veux juste mettre tout que j'appelle à la bonne station, parce que là, vous avez l'air d'avoir une conversation intime de combien de fois par jour et à tous les deux jours. Et là, je veux être sûr que j'étais à la bonne place
quand
on parle de sport.
Avec toi, ça va être la bonne place. Ça, je peux te garantir ça. Inquiète-toi
pas. Okay. C'est bon, merci.
OK. Jean Le Grand-Pierre, hier, dans le segment Le Choc des idées avec Martin Lemay, ici à BPM Sport, là, il est allé de certaines déclarations assez intéressantes, puis ça se parlait de Lane Hudson puis le Canadien.
Je suis avec Nick Suzuki au centre, je crois que vous êtes en Cadillac avec ça. Je suis allé deuxième, Slavkovski, troisième, pour mettre un défenseur là-dedans, je suis allé avec Lane Hudson.
OK, il parlait d'intouchables, puis il a donné Suzuki, Slavkovski puis Lane Hudson, puis évidemment, il y a des choses qu'on ne sait pas. Est-ce que les intouchables, c'est parce que tu vas avoir des joueurs pour les prochaines 10 ans. Je ne sais pas le contexte exactement, mais c'est intéressant parce que quand je l'ai entendu, moi, hier, là, puis j'ai dit à Alex un matin, ça, c'est notre question du jour. Là, on va faire jouer le clip de Jean Le Grand-Pierre, puis on va demander aux auditeurs puis aux auditrices, c'est qui leurs trois intouchables. Moi, j'aime beaucoup Lane Hudson. Moi, je pense que je suis son vice-président, le vice-président de son fan club après Jean Le Grand-Pierre, qui est le président, là.
Ouais.
Mais, tu sais, des fois, on s'emballe à Montréal, mais je comprends que tu es un joueur avec d'excellentes habilités, tout le monde l'aime jouer, mais faut être honnête aussi, il n'a pas accompli rien dans les nationales encore. Il y en a qui ont encore même des doutes, est-ce qu'il va être en mesure de défendre au niveau de la Ligue nationale pendant la prochaine année? Il est petit, il doit mettre du poids. Tu sais, il y en a qui sont même pas sûrs qu'il va faire la grosse équipe cette année, ça se peut qu'il va à Laval. Donc moi, personnellement, même si je l'aime beaucoup, 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 et je vois un potentiel incroyable en lui, pour moi, ma réponse, c'est le premier trio de Suzuki, Slavkovski et Caulfield. Toi, t'en penses quoi exactement?
Ben, écoute, j'ai deux choses. Un, dans le cas d'Hudson, moi, je suis très content que Jean-Luc Grandpierre voit le potentiel que tout le monde dit en lui, parce qu'il l'a vu, parce qu'il l'a... Il l'a vu à maintes reprises, mais aussi parce que je respecte l'opinion de Jean-Luc. C'est un gars qui est pour moi une bonne tête, une bonne tête pour évaluer aussi un jeune et le potentiel. Donc ça m'encourage beaucoup, mais moi, je suis pas capable de mettre un titre si rapidement dans mes intouchables. Je l'ai pas vu. C'est peut-être le côté que mon côté de gestion un peu, que je donne un coup de main avec les Vultures de Drummondville, puis après 15-16 ans, ici, c'est que j'ai appris à pas m'attacher à mes joueurs puis pas voir trop gros, trop vite. J'aime mieux le voir avant de me faire une tête dessus, mais le potentiel et le plafond d'un gars comme Lane Hudson est plutôt illimité. Fait que ça, c'est très intriguant. L'autre chose, pour moi, pour mon top 3 d'intouchables, je vais me prêter au jeu, Tony, parce que moi, j'en ai pas trois intouchables chez le Canadien. J'en ai deux. Mais pas pour le jeu, je vais embarquer avec toi. J'ai évidemment Suzuki, Slavkovski. Ça, c'est mes deux à moi auxquels je ne touche pas sans aucune considération présentement. Puis je dis sans aucune considération, je mets un astérix parce que, évidemment, il n'y a personne qui est véritablement touchable si tu m'offres Connor McDavid. Mais pour troisième, pour moi, présentement, je vais y aller avec le produit qu'on n'a pas totalement vu à son plein potentiel, mais que lui aussi, le potentiel peut être très, très important et très grand chez le Canadien, c'est Kirby Doc. On a cherché longtemps pour des joueurs de centre chez le Canadien. On a Suzuki numéro un présentement, mais Kirby Doc, le potentiel qu'il nous a démontré au camp l'année passée et le premier match avant qu'il se blesse, ce qu'il est capable de faire dans cette situation-là, un avantage numérique, il est capable de faire rondelle, mais c'est surtout qu'il a une vision, il joue 200 pieds, il a un flair offensif, puis c'est un grand et gros bonhomme dans ta ligne de centre. Ça, pour moi, c'est très, très important. Je vais se dire qu'il est intouchable, mais ça sera pas pour longtemps. Je veux le voir cette année. Si jamais il réussit pas à jouer la majorité des matchs par cause qu'il est blessé ou peu importe les autres raisons, mais là, évidemment, ça va changer. Mais pour moi, là, au niveau d'importance, je le vois un peu en avant de Caulfield, qui serait peut-être mon autre candidat pour le troisième chef.
C'est une réponse intéressante, Denis, parce que je pense que toi, tu regardes l'importance, tu regardes la position, tu regardes le potentiel, puis je peux comprendre ça. Moi, je regarde qu'est-ce que Caulfield a fait les derniers 3 ans. Je sais qu'il n'a pas été le meilleur buteur des Canadiens. L'année passée, c'était Suzuki avec 33 buts. Caulfield est arrivé deuxième avec 28. Mais si on regarde les 3 ans, c'est Caulfield, jusqu'à preuve du contraire, qui est le meilleur buteur naturel du Canadien. Puis même si je suis d'accord sur tout ce que tu as dit sur Kirby Dach, le fait reste que Kirby Dach, il est blessé souvent. Et Kirby Dach, il n'a pas joué à son potentiel encore, puis il n'a pas été productif à son potentiel encore. Donc pour moi, il y a encore quelques points d'interrogation plus que Caulfield. Mais je pense pas qu'il y ait une mauvaise réponse là-dedans. Puis à la fin, c'est juste des opinions, là.
Exact. Puis dans le cas de Kirby Dach, tu sais, c'est pour moi, c'est ça. C'est je m'en voudrais de pas me rendre au bout de ce joueur-là à cause de tout, de tous les atouts, tout le potentiel qu'il y a. Tu sais, moi, ce que je me demande souvent dans des gars qui sont intouchables, c'est tu sais, si un gars comme Caulfield ne marque pas de but, comment est-ce qu'il va contribuer à l'équipe? Qu'est-ce qu'il fait d'autre chez le Canadien pour dire qu'il va être un élément important dans une victoire ou dans une série de victoires du Canadien? C'est là, c'est un peu là pour moi que je me questionne et que je me cherche à trouver des réponses. C'est dans le cas de Kirby Dach, c'est peut-être différent. C'est un gars qui n'a pas marqué des buts. C'est un gars capable de distribuer la rondelle. C'est un gars qui joue en infériorité numérique. C'est un gars qui est à son meilleur jeu. Un avantage numérique. C'est un gars qui est capable de jouer contre un meilleur trio adverse. Quand il est à son meilleur, c'est un gars qui peut jouer contre un gros trio adverse puis les neutraliser. Ça, pour moi, ça a de l'importance puis ça a de la valeur. Quand je parle d'intouchable, c'est pas juste un one-trick pony. C'est qu'est-ce que tu es capable de faire d'autre quand ton atout numéro un n'est pas à son meilleur présentement. Qu'est-ce que tu apportes d'autre au match pour être capable d'aider les gars?
Évidemment, c'est une question qui se pose aussi et qui pose aussi le Canadien. C'est pour ça que Martin St-Louis a travaillé toute l'année avec Cole Caulfield pour en faire de lui un joueur beaucoup plus complet, parce qu'eux autres, ils avaient la même discussion, hein? Au septième étage. Ils disaient, mais si Caulfield ne marque pas, comment est-ce qu'il va nous aider? Donc, ils essaient de trouver une façon pour qu'il les aide, même quand ils ne marquent pas. Et c'est pour ça qu'ils ont essayé. Puis, tu sais, en parlant de Caulfield, là, si toi, tu serais son entraîneur, ils ont travaillé avec lui l'année passée pour essayer d'en faire un joueur beaucoup plus complet. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier dont tu travaillerais avec lui?
Moi, c'est toujours une question, puis Martin en parle souvent, c'est une question d'équilibre. C'est une question quand être agressif, puis quand... Parce qu'un gars comme Caulfield, pour avoir du succès, doit tricher un peu. C'est parce que à cause de son gabarit, à cause de tout ce qu'il a et de ce qu'il n'a pas, en fait, d'actif, là, d'habileté, puis de grandeur, grosseur, tout ça, c'est une question d'être capable de juger quand c'est le temps de tricher, dans les situations de match, dans les situations sur la glace. À quel endroit de la patinoire est-ce que je peux me permettre d'être un peu plus agressif que d'autres? Et dans d'autres situations, si je joue le temps, j'ai le cadran, je joue le score au tableau, maintenant, c'est peut-être le temps d'être un peu plus en retrait, un peu moins agressif, un peu plus safe, là, on peut le dire comme ça. Fait que ça, pour moi, j'ai l'impression que je l'ai vu beaucoup plus en deuxième moitié de saison l'année passée. Parce que Martin avait travaillé beaucoup de lui en début d'année, puis Lucien avait parlé qu'est-ce qu'on peut faire d'autre quand il marque pas, puis j'ai trouvé qu'il y a eu une amélioration dans le cas de Caulfield, qui était beaucoup plus responsable. Puis tu sais, si t'es capable de le mettre sur la patinoire, puis t'as pas peur, puis qu'il sera pas là, puis il coûtera rien, tu sais, ça c'est un bon signe dans le cas de Caulfield. Parce que souvent des joueurs comme ça qui sont jeunes, qui arrivent, sont bourrés de talent, ils veulent marquer des buts, ils veulent mener de l'offensive, c'est qu'ils vont tricher, mais ils vont tellement tricher, ils vont sortir de position, ils vont être sur le mauvais côté de la rondelle, mauvais côté de la bagarre un contre un. Tout de suite, va donner une relance, un surnombre, un échappé ou des mauvaises situations défensives. Et ça, Caulfield, pour moi, c'est beaucoup responsabilisé l'année passée versus ce qu'on avait vu avant. Donc, pour moi, je vois une belle progression. Il en manque encore un peu, puis il sera jamais parfait. Puis je m'attends pas à ce qu'un gars comme Caulfield soit jamais parfait défensivement. Mais je veux qu'il soit responsable et que Martin soit capable de le mettre sur une patinoire contre n'importe qui, n'importe quand, puis il coûtera rien. Il va arriver des erreurs, on s'entend, mais c'est de balancer le niveau d'offensive et d'agressivité, puis d'être capable de tricher comme il faut et au bon moment, mais aussi d'être capable de jouer un peu plus de façon responsable pour être certain qu'on cause rien de négatif.
Moi, je vais peut-être te surprendre par ce que je vais dire maintenant, mais je vais le dire, là. Pourquoi pas prendre sa force et essayer d'améliorer sa force? Il est un tireur, il est un buteur, il y a des saisons de plus de 20 buts, il en a marqué 28, il n'a jamais marqué plus que ça. Il y en a qui pensent qu'il pourrait être un marqueur de 35 buts dans la Ligue nationale, il y en a qui pensent qu'il pourrait être un joueur de 40 buts dans la Ligue nationale, il y en a qui voient même 45, 50, je n'irai pas aussi loin que ça, on ne sait jamais. C'est un liste, c'est une courte liste des joueurs qui marquent 50 buts. Mais est-ce que tu me suis? Pourquoi pas prendre sa force puis travailler là-dessus pour faire de lui un marqueur de 35, 40 ou 45.
Mais est-ce que la différence de 7-8 buts versus l'année passée va faire une différence avec les Canadiens pour faire des séries ou non? Je vais utiliser un terme anglais, là, puis je vais le traduire librement après, mais « you can't outscore terrible defense ». Fait que tu sais, tu peux pas amener Caulfield à marquer plus de buts et un certain nombre d'extras pour être capable de négliger l'impact d'être mauvais défensivement, parce que c'est tout le monde joue bien défensivement dans la Ligue nationale. Donc, de marquer 7 buts de plus ou 8 buts ou 10 buts de plus pour Caulfield cette année, ça va quand même être difficile. C'est beaucoup plus facile d'en donner une dizaine ou une vingtaine ou une trentaine en trichant, puis en étant mauvais défensivement, en étant un manque de responsabilité, que d'être capable d'en marquer 30 de plus pour être sûr que je néglige les 20 que je donne de plus. Je sais pas si ça fait du sens que j'ai
Non, ça fait complètement du sens. J'aime l'analogie, mais j'aimerais ajouter, par exemple, que s'il reste le même joueur de défensif, ils ont perdu combien de matchs, le Canadien, par un but l'année passée? Là, s'ils en marquent 7 ou 8 de plus, peut-être ils vont aller chercher 7 points de plus. Par contre, 7 points de plus, ils font pas les séries, puis là, je te suis.
Juste regarder le plafond des deux joueurs, entre Fantilli puis Hudson, sérieusement. Écoute, appelle-moi fou, mais je dirais que Hudson va être par-dessus Fantilli. Mais ça, c'est juste mon opinion. Puis wow. Fantilli, je l'ai vu là ici. Là. Tu sais, je fais juste te dire, je crois que Hudson, il est capable de faire des affaires qu'il y a bien d'autres défenseurs qu'on n'a jamais vu vraiment faire là, dans le hockey collégial.
C'est une affaire,
comment ça va se transférer à la Ligue nationale, on va le voir. Mais pour moi, là, je pense qu'il va être incroyable.
Tu veux une opinion? Tu l'as eu, Jean-Luc Grandpierre, hier, dans le segment Le Choc des idées, au retour des sportifs avec Martin Lemay. Steve Bégin faisait partie de ce segment-là aussi. Adam Fantilli, là, peut mettre les choses en contexte, là, c'est un joueur de centre qui lance de la gauche 6 pieds 2, 6 pieds 2 et demi, un bon 200 livres. Là. Il était le troisième choix overall dans la première ronde, là, 2023. Lane Hudson, là, lui, il fait 5 pieds 9 et demi, 5 pieds 10 maximum, 165 maximum. Lui, il était choisi dans la deuxième ronde, 62e. Et là, deux ans après son repêchage, un an après le repêchage de Fantilli, Jean-Luc Grandpierre te dit que lui, il place Lane Hudson avant Adam Fantilli. Denis Gauthier d'RDS, rebonjour, tu t'es dit avant que tu étais optimiste, tu étais encouragé d'entendre Jean-Luc Grandpierre parler aussi bien de Lane Hudson. Ça, c'est un commentaire qui m'a fait faire « wow ».
Et aucun doute, c'est moi aussi, j'ai été surpris, mais en même temps, tu sais, Jean-Luc est très bien placé, a vu Hudson jouer souvent de ses propres yeux, pas juste en vidéo, il a vu Fantilli l'année passée avec les Jackets, donc il est en position de commenter. Tu sais, Lane Hudson, quand on parle de plafond, là, tout le monde le connaissait son plafond quand il était repêché. Si Lane Hudson fait 6 pieds 2, est-ce qu'il sort vraiment en deuxième ronde, il sort 62e au total? Non, absolument pas, il sort peut-être top 5, top 10. Parce que c'est un talent pur, c'est un talent naturel, il est dynamique, il y a quelque chose que très peu d'équipes ont dans leur alignement et dans leur profondeur. Donc, si Hudson réussit à percer, faire une carrière au niveau de son plein potentiel, ça peut être un vol absolu du Canadien de l'avoir repêché à ce moment-là. Et c'est un risque. Tout le monde a peur des petits défenseurs dans la Ligue nationale, puis c'est encore comme, même si tu sais, la ligne nationale a changé, il y a de nouvelles réglementations, la ligne rouge est disparue, on n'accroche plus à tout ce qu'on sait maintenant. C'est encore un jeu qui est beaucoup plus ouvert et permis, je te dirais, pour les petits attaquants que pour des petits défenseurs. Il y a encore de la place, il y a une plus grande ouverture qu'avant, mais ça fait toujours un peu peur de prendre un risque très tôt, surtout en première ronde, sur un petit défenseur. Tu sais, il y en a pas beaucoup dans la ligne nationale présentement qui... c'est pas toutes les équipes qui ont un petit défenseur dans l'alignement qui amène l'offensive. Tu sais, je parle d'un Girard, à Colorado. Il y en a quelques-uns à travers la ligue. Il y en a très peu. Donc, tu sais, c'est difficile de dire que c'est certain qu'un Lane Hudson va percer, va y aller, tout ça. Sauf que, il y a toujours des exceptions. Lane Hudson est unique, est un spécimen offensif dynamique. La vision de son jeu est capable de créer de la séparation. Et ça, c'est le plus gros atout que Lane Hudson a, c'est capable de se séparer de l'échec avant ou des adversaires un contre un. Le questionnement, c'est toujours, est-ce qu'il est capable d'être assez intelligent pour défendre avec son bâton et son positionnement? Parce qu'il ne défendra jamais le territoire et le filet avec son gabarit, avec sa force physique. Et c'est là que ça devient difficile de défendre lorsque tu défends seulement avec ton bâton et ton positionnement. Tu dois être absolument et incroyablement intelligent et être capable d'anticiper beaucoup, beaucoup de jeux sur la patinoire. On l'a vu deux matchs à Montréal, ça a été très intéressant, il a été excellent. Est-ce que ça a été sur l'adrénaline? Est-ce qu'il était à hauteur de son talent? Est-ce qu'il était au-dessus ou en dessous? Ça, le temps va nous dire. J'ai hâte de le voir au camp, d'être capable de voir comment il s'est adapté durant l'été et la confiance qu'il a bâtie au cours des deux derniers matchs chez le Canadien ici.
Denis, j'ai d'autres questions sur Lane Hutson, mais on va avoir amplement de temps cette saison, puis même là, dans les semaines à venir. Mais je t'avais dit il y a un couple de jours là, que je voulais parler de ton entraîneur avec les Voltigeurs de Drummondville, Sylvain Ferreau, parce que évidemment, dans les derniers mois, après que Jean-François Hull a décidé de quitter l'organisation, puis le Rocket était à la recherche d'un entraîneur, selon mes, je pense que tout le monde l'a dit, là, mais tout le monde a dit que le Rocket était intéressé par Sylvain Favreau. Mm-hmm. Mais selon mes infos, il était deuxième sur la liste. C'est parce qu'évidemment, après Pascal Vincent, qui a eu le poste. Moi, ma question pour toi est-ce que tu es surpris que tu as été en mesure de garder ton entraîneur encore à Drummondville?
Je suis très surpris, mais je suis surtout, puis là, je vais le dire de façon très égoïste, là. Je suis content de revoir Sylvain Favreau à Drummondville encore une année, parce que je pensais pas le revoir. C'est un entraîneur, pour moi, qui est prêt à faire le saut, qui est prêt à faire de passer à la prochaine étape, Ligue américaine, capable d'être en chef à ce niveau-là. Il est dans le programme d'Hockey Canada présentement, il gradue à toutes les années, à chaque de chaque équipe, à chaque niveau. Il va faire partie encore de l'équipe nationale des moins de 20 ans à Noël cet hiver. Mais pour moi, là, c'est un communicateur hors pair. C'est un entraîneur qui est absolument incroyable, qui n'a plus beaucoup, je pense, à prouver dans les rangs juniors au Québec pour se prouver, pour se montrer. Puis je comprends, puis je suis content que le Canadien a montré de l'intérêt à ce point-là, puis qu'il était très proche d'un poste avec le Rocket de Laval. Il aurait fait un travail excellent, mais c'est que partie remise, ça l'a dit Pascal Vincent, je suis convaincu, il va faire le travail à Montréal, il est excellent. Mais pour moi, Sylvain Favreau, là, c'est un entraîneur de la nouvelle génération. Il est bon à communiquer. Pas vrai. Il est superbe à communiquer avec les jeunes. Il n'y a aucune zone grise. Et côté tactique, stratégique, technique, il l'a acquis. Il est capable de l'enseigner, il est capable de le montrer. Moi, pour moi, c'est un entraîneur absolument incroyable. Puis c'est peut-être, puis sans dénigrer personne, parce que j'ai eu des excellents entraîneurs de Drummondville qui ont tous été avant ou après dans le national, là, des Mario Duhamel, Dominique Ducharme, Martin Raymond. Mais c'est peut-être le meilleur communicateur que j'ai eu la chance de côtoyer ici. Wow. Il est absolument phénoménal.
Wow. Sujet intéressant, ça, parce que on parle souvent que les Canadiens ne peuvent pas échapper le joueur québécois. Puis quand le joueur québécois, le Canadien, là, le sélectionne pas, puis notre équipe le sélectionne, puis là, il fait ses débuts dans le national, puis là, il marque des buts, ou là, il joue bien, là, on dit comment le Canadien ont pas signé ce gars-là. Là, on parle pas mal de la même chose, sauf qu'au lieu de parler d'un joueur, on parle d'un entraîneur. Puis je comprends que dans la Ligue nationale, les postes sont disponibles, sont limités. Ouais. Dans la Ligue américaine, les postes disponibles sont limités. Puis à la fin, tu sais, t'as peut-être, dans le genre de poste, t'as peut-être une ouverture, t'as peut-être deux, c'est pas beaucoup. Par contre, et je veux pas que tu perds ton entraîneur, Denis, loin de là, mais si toi, tu serais le Canadien, puis je sais pas comment je peux te poser la question, mais qu'est-ce que le Canadien pourrait faire là pour garder quelqu'un comme ça avant qu'il s'en va ailleurs? Au moins, tu sais?
Ben, faut que tu lui trouves un poste, c'est certain. C'est juste que, tu l'as mentionné, il y a juste un certain nombre de postes de disponibles, puis faut que tu lui donnes un poste où que ton entraîneur québécois est stimulé. T'sais, tu peux pas lui donner un poste de côté l'année comme entraîneur adjoint dans ton club ferme dans l'américaine ou entraîneur chef dans East Coast ou lui donner un autre poste. T'sais, faut qu'il y ait une progression dans son cas pour que l'entraîneur se sente que il chemine dans son parcours pour éventuellement avoir la chance de devenir entraîneur chef dans l'année nationale. T'sais, ce qui me rassure, puis ce que je suis content, c'est qu'on a quand même il a pas eu le poste, mais c'est un autre entraîneur québécois qui a eu le poste à Montréal. C'est Pascal Vincent, c'est un excellent entraîneur. Puis c'est un autre aussi qu'on aurait dit pourquoi est-ce que lui a jamais été fait partie de l'organisation du Canadien ou Tu sais pourquoi il n'a pas donné l'opportunité? C'est un entraîneur qui a beaucoup d'expérience dans les rangs juniors, dans la Ligue américaine, maintenant dans la Ligue nationale depuis plusieurs saisons. Tu sais, tu peux pas nécessairement dire que tu peux te permettre de passer à côté de ça non plus. Mais il faut que tu sois capable de flairer, par exemple, tes jeunes entraîneurs québécois, puis peut-être les amener graduellement à te rapprocher de l'organisation, nécessairement d'amener des cas de développement durant l'été, que ça n'amène à aucun engagement, mais au moins t'es rapproche, t'essaies de leur donner une certaine appartenance avec ton organisation. Puis quand vient le temps d'avoir une ouverture, mais c'est là qu'il faut que tu y ailles. Mais pour les Canadiens, c'est. Tu peux pas inventer des postes d'entraîneur dans ton organisation. Non. À un certain moment donné, c'est. Il est là, il est disponible, le timing n'est pas bon. C'est comme les joueurs québécois que le Canadien dit des fois qu'on n'a pas repêché parce que le timing n'était pas bon dans le repêchage, mais c'est un peu le même scénario pour les entraîneurs. On avait deux disponibles, deux excellents entraîneurs québécois disponibles pour être entraîneur-chef du Rocket, on en a choisi un. C'est malheureux pour Sylvain Favreau, mais ce que je te garantis, c'est qu'il ne sera pas dans la Ligue du hockey junior maritime très longtemps. C'est un gars qui va progresser rapidement parce que son nom circule beaucoup à travers la Ligue présentement, parce que j'ai beaucoup de contacts, ouais. J'ai beaucoup d'amis, puis tout le monde le connaît, tout le monde le voit venir, et ça sera pas tellement long avec cet homme-là et un poste professionnel dans l'Union américaine ou autre.
Mais j'aime ce qu'il t'a dit, par exemple, tu sais, t'as dit un camp de développement, amène-le.
Exact.
Tu sais, ouais. Fais-lui faire partie de cette camp de développement-là, donne-lui, tu sais, fais du input aussi, là, tu sais, fais-lui ouais. Parler, comment qu'il voit ça, peut-être faire un petit symposium, tous tes coachs avec un coach de l'extérieur, t'amènes lui, t'amènes quelqu'un d'autre, là, à un moment donné, il commence à parler, il commence à te montrer quelque chose, j'imagine que lui pourrait te montrer quelque chose que peut-être toi, t'as pas pensé encore, tu dis, oh, ouais, il est sharp, ce gars-là, là, lui, il est sharp, tout d'un coup, là, boum, il y a un poste.
Et c'est une audition gratuite. Pour une organisation internationale, là, c'est que tu amènes cet entraîneur-là, tu l'amènes cette personne, tu vois comment qu'il gère les jeunes, comment qu'il communique avec eux, comment qu'il enseigne, la philosophie, c'est comment tu vois, toi, certaines situations de jeu, ton enjeu de puissance, c'est quoi tes forces, tes faiblesses, pourquoi t'aimes ce style de jeu-là, ce style de défensive-là, puis tout ça. À un moment donné, tu trouves une chimie, tu trouves, ah oui, lui, ce gars-là, il vient chercher notre identité, culturel de notre organisation, mais c'est parfait, c'est le gars qu'on va amener. Puis des fois, ça marche peut-être juste pas, il voit pas la game comme notre organisation la voit, mais je l'ai essayé, c'est une audition gratuite qu'on a, mais les gars de cette trempe-là, par exemple, je pense que tu peux pas permettre de passer à côté, mais, tu sais, Sylvain, il y en a eu un camp de développement, il est allé ailleurs cette année, il est allé à Nashville, puis ça s'est bien, très bien passé là-bas, puis tu sais, il s'est implanté là, il y a eu des belles relations, il y a eu des bonnes communications avec Barry Trotz et le reste du groupe d'entraîneurs là, puis on sait jamais, ça sera peut-être là un jour, ça sera peut-être ailleurs. Mais c'est un gars qui va cheminer et très rapidement.
Denis Gauthier, merci beaucoup, toujours un plaisir. On se parle mardi.
Parfait, salut Tony.
Merci beaucoup, le voilà, Denis Gauthier d'RDS.